Alors, pendant cette retraite, on vous a parlé du bon Dieu, mais aussi du péché. On vous a parlé de notre Seigneur, de la grâce, mais aussi de la confession. Je pense que vous avez mieux approfondi, mieux compris que nous sommes faits pour Dieu, mais qu'il existe bien sûr toujours un ennemi. L'ennemi, c'est bien sûr le démon qui veut nous détourner de notre fin, comme il l'a fait pour Adam et Ève. Alors vous voyez, tout simplement, bien nous sommes dans un combat spirituel. Combat spirituel, nous savons que nous sommes faits pour Dieu, mais nous avons beaucoup d'ennemis qui veulent nous détourner de Dieu. Donc nous sommes vraiment dans un combat. Saint Paul le dit très bien d'ailleurs. Vous trouverez ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Oui, saint Paul nous parle bien donc de ce combat spirituel. Nous avons effectivement ce combat à mener. Alors, si nous avons ce combat, évidemment, dans tout combat, il y a des dangers. Ah, bon, bien sûr, bon, je pense que personne, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des militaires parmi vous, mais en tout cas, c'est sûr que si on apprend l'art du combat, il faut savoir se faire attention aux dangers. Mais pour notre vie spirituelle, souvent, il peut se faire que l'appréhension, la peur des périls, si vous voulez, qui menacent notre vie physique, ou la crainte peut-être tout simplement des souffrances corporelles, eh bien, risque d'entraver notre vie spirituelle, l'essor de notre vie spirituelle. Toute cette crainte risque de nous détourner du bien, de notre devoir. Alors nous avons besoin d'une vertu qui va maintenir la domination de l'esprit sur la matière, la maîtrise de l'âme sur les facultés inférieures, et cette vertu, c'est la force. Nous avons donc besoin de cette vertu de force pour notre combat spirituel. Vertu de force, moteur du combat spirituel. Alors voyons d'abord la nature de cette vertu de force avant d'en voir les moyens de perfectionner cette vertu. Alors si nous parlons de cette vertu de force, il y a plusieurs définitions qui disent plus ou moins la même chose. On dit que la vertu de force est une vertu morale, bien sûr, surnaturelle, qui affermit l'âme dans la poursuite du bien difficile, sans se laisser ébranler par la peur, pas même par la crainte de la mort. Donc, vous voyez, vertu qui va affermir, qui va rendre forte notre âme pour poursuivre justement ce bien difficile, et sans se faire intimider par la peur ou la crainte de la mort. Ou alors une autre définition qui dit à peu près la même chose, c'est une vertu morale qui nous fait entreprendre pour le bien des choses très difficiles, ou souffrir de grands maux, même la mort. Alors cette vertu, elle est nécessaire. Elle nous est nécessaire pourquoi? D'abord pour dominer notre nature déchue. Vous voyez, dans la vie spirituelle, on revient toujours dans ces grandes vérités que vous avez déjà entendues dans des conférences, que vous entendrez encore. Toujours ces fameuses conséquences du péché originel. Donc nous ne sommes plus dans une nature intègre, comme nos premiers parents. Non, nous sommes dans une nature déchue. Eh bien, pour dominer cette nature déchue, comme je vous l'ai déjà dit, où il y a une révolte, nous nous sommes révoltés contre Dieu, donc en nous, il y a une révolte. Révolte de la sensibilité contre nos facultés spirituelles, contre l'intelligence, la volonté. Donc là, pour dominer cette nature déchue, je veux dire, on le sait par expérience, hein. Eh bien, il nous faut cette vertu de force. Autrement, on se fait dominer. C'est l'animal qui domine en nous, autrement. Donc, nécessité. Elle est nécessaire aussi pour accomplir les devoirs de notre État. Ah, ça aussi, là, par expérience, nous savons bien que nous avons des difficultés dans notre devoir d'État. Donc, nous avons besoin de cette force. Nous en avons besoin aussi, cette vertu, pour triompher de l'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, évidemment, Satan. On va le rechanter tout à l'heure, donc chaque soir. Resistite fortes in fide. Ça, c'est les complices, tout au début. Faites attention ce soir. C'est ce que lit le lecteur, cette petite épître de Saint-Pierre, chapitre 1er épître, chapitre 5, verset 9, qu'on chante donc tous les soirs accomplis. Eh bien, Saint-Pierre nous dit, résistez fortes in fide, résistez avec force dans la foi, donc contre le démon. Circuit quaremscoem devoret, ce démon qui cherche qui dévorer. Donc, nécessité pour triompher de notre ennemi, aussi nécessité de cette vertu, de force pour opérer notre salut, tout simplement. Si nous voulons faire notre salut, eh bien oui, nous avons besoin de cette force. Et là, c'est notre Seigneur qui le dit, peut-être une phrase qui vous fait poser quelques questions quand vous l'entendez ou quand vous lisez l'Évangile. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux souffre violence et les violents l'emportent. Ça peut paraître curieux, notre Seigneur qui prône la violence. Donc notre Seigneur, ce n'est pas Gandhi. Non, notre Seigneur prône la violence. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire précisément la vertu de force. Ce n'est pas la savonnette qui va aller au royaume des cieux, si vous voulez. Si vous êtes comme une savonnette, on ne sait pas où vous saisir, ça vous glisse dans les doigts, donc quelqu'un complètement mou, etc. Il aura beaucoup de difficultés à se glisser dans le train qui l'emmènera au ciel. Non, il faut la violence, violence, violence intérieure, effectivement, la vertu de force pour opérer notre salut. Donc cette vertu est vraiment nécessaire contre la crainte. Elle est nécessaire aussi contre la crainte qu'elle va chasser. Elle est nécessaire aussi contre l'audace qu'elle modère. C'est bien d'avoir de l'audace, mais il faut aussi modérer cette audace. Et puis nécessaire contre la colère qu'elle va réprimer ou alors dont elle va se servir pour, comme un utile aiguillon, bien l'orienter, cette colère. Vous voyez, en énumérant ces quelques faits, vous voyez effectivement que cette vertu nous est vraiment nécessaire. Alors, quel est son objet, l'objet de cette vertu de force? Eh bien, d'abord, réprimer les impressions de la crainte, qui tend à paralyser, bien sûr, nos efforts vers le bien. Donc elle va diminuer cette crainte que nous avons. Et puis en même temps, elle va modérer cette audace qui, sans cette vertu de force, eh bien, deviendrait vite de la témérité. Donc on peut dire que l'attitude de l'âme forte, qu'est-ce qui la caractérise, cette âme forte? Eh bien, c'est une fermeté sereine, si vous voulez. Un calme imperturbable. Toujours calme. Basé sur l'assurance que la volonté soutenue par la grâce suffira toujours à faire front à tous les assauts et elle demeure invincible. Bon, comme un slogan qui avait fait fureur à une époque d'une campagne électorale, bon, les plus anciennes vont se souvenir de qui il s'agit. Il avait pris comme slogan de sa campagne la force tranquille. Bon, la nécessité. C'est ça, si vous voulez, c'est la force tranquille. Donc on est fort parce qu'on se domine, si vous voulez. Bon, là, il le prenait pour se faire passer pour un président qui dominait la situation. Mais enfin, en soi, c'est un révolutionnaire. Bref. Donc, c'est la fermeté sereine, vous voyez, le calme imperturbable. On ne se laisse pas agiter par les flots. On domine son bateau. Si on est en bateau sur une mer agitée, eh bien, on ne boit pas la tasse. Et comme disait Sainte Thérèse d'Avila, « Que rien ne te trouble, mon âme. Ô mon âme, que rien ne te trouble. » Alors, quels sont les actes de cette vertu de force? Eh bien, deux actes principaux, entreprendre et endurer. Alors, vous avez des termes latins que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être entendu chez des prêtres dans des sermons, parce qu'ils sont célèbres dans la Somme. Entreprendre, c'est agrédi. Entreprendre des choses difficiles, l'agrédi, comme on dit, c'est du latin. Et endurer, c'est ce qu'on appelle le soustinere. On endure des choses difficiles, soustinere. Alors la force consiste d'abord à entreprendre et à exécuter des choses difficiles. Il y a en effet sur le chemin de la vertu, de la perfection, des obstacles nombreux. Ça, nous le savons par expérience. Difficiles à vaincre. Sans cesse renaissant. Donc on a toujours ces difficultés qui reviennent. Eh bien, ces difficultés, il ne faut pas en avoir peur. Il faut aller même au-devant d'eux. Il faut faire courageusement l'effort nécessaire pour surmonter tous ces obstacles. Alors, c'est le premier acte de la vertu de force. On entreprend des choses courageuses pour éliminer les obstacles. Bien sûr, cela suppose de la décision. Il faut de la décision, cela suppose du courage, cela suppose de la constance pour continuer l'effort jusqu'au bout et ne pas s'arrêter à la première difficulté. Alors, essayons d'illustrer cet premier acte de force, donc l'agrédit, entreprendre des choses difficiles, par des exemples tirés de la Sainte Écriture. Vous avez bien sûr un exemple que vous connaissez, c'est David et Goliath. David et Goliath, bon, on connaît l'histoire par cœur, ça semble facile, mais mettez-vous à la place de David. Donc vous avez ce Goliath, donc ce Philistin, qui devait faire plus de 2 mètres, donc vraiment quelqu'un à baraquer, qui avait l'habitude du combat, qui avait une armure, et puis il avait mis en défi l'armée d'Israël en disant, bien voilà, que l'un de votre armée vienne me combattre, et puis celui qui gagne, eh bien son peuple, l'autre peuple plutôt, l'ennemi sera l'esclave du vainqueur. Donc vous voyez, au lieu de se battre les deux armées ensemble, eh bien on fait un combat individuel. Donc cette espèce de grand Goliath. Alors bien sûr, Israël était paralysé de peur, parce que voyons la carrure de ce Goliath, tout le monde se défilait. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Alors jusqu'au jour où le petit David, enfin petit David qui était déjà, je pense, un jeune homme, enfin un jeune adolescent, déjà bien assez fort, eh bien il en avait assez d'être insulté par ce païen. Il dit, je vais y aller. Donc il va voir le roi Saül, et il va lui dire, j'y vais. Alors Saül, il dit, mais non, quand même, tu vas pas y aller, tu vas te faire battre, tu t'es jamais battu, lui c'est un militaire, il sait faire, etc. Non, non, pas de question. Bon, alors prends au moins mon armure. Alors Saül passe son armure à David, qui met son armure, et puis il n'arrivait plus à bouger avec. Non, mais je peux pas y aller comme ça, j'ai pas l'habitude. Alors il enlève tout, il enlève l'armure, il dit voilà, je prends ma petite fronde, quelques cailloux, ça me suffit, c'est comme ça que je vais y aller. Puis bien sûr, avant il a prié, jeûné, etc., ça c'est certain. Et puis il se trouve devant cette baraque, Goliath. Alors évidemment, Goliath va d'abord l'insulter. Comment, espèce de chien, tu viens à moi comme ça, mais tu te moques de moi? Évidemment, vous imaginez ce militaire complètement avec une armure, et une espèce de jeune homme qui vient avec lui, juste avec une fronde, à la limite il vient le narguer. Donc il n'apprécie pas trop la chose. Et puis David qui répond, non, moi je combats au nom du Dieu Tout-Puissant, etc. Puis vous connaissez la suite. Alors l'autre va commencer à se précipiter sur David pour le mettre en morceaux. David esquisse, et puis ensuite, tranquillement, paf, hop, dans le front. Alors il tombe, bien sûr, assommé, et puis il se précipite, il prend l'épée, et puis voilà. Pouf, il coupe la tête, c'est fini. Eh bien, il fallait de la force pour David. Mais j'entends certaines parmi vous dire, mais écoutez, ce n'est pas l'exemple qu'il faut nous proposer quand même. Nous sommes de frêles jeunes filles ou dames, ce n'est quand même pas David et Goliath l'exemple de la vie spirituelle sur la vertu de force. Donc écoutez, monsieur l'abbé, reprenez, là vous prêchez à des garçons. Alors, bon, c'est vrai, je me suis trompé. Alors, je vais prendre l'exemple d'une femme, alors, dans l'Ancien Testament, effectivement. Alors l'exemple, c'est Judith. Ah, est-ce que vous connaissez l'histoire de Judith? Donc exemple de force aussi. Alors vous allez voir, si vous ne connaissez pas, peut-être de vagues souvenirs lointains, eh bien vous verrez jusqu'où vous pouvez aller. Alors, Judith. Bon, rapidement, pour mettre dans le contexte, donc elle habite dans une ville qui s'appelle Béthulie. Et puis, elle, cette pauvre dame, c'est une jeune veuve, son mari est mort d'une insolation. dans les champs. Il faisait les moissons et puis il a pris une insolation, il n'a pas fait attention, il est mort. Alors la pauvre, elle ne se remet pas du tout de son deuil, donc une veuve. Donc elle mène, après son veuvage, donc elle mène une vie fervente. Elle prie, elle jeûne, etc. Bref. Et les Saintes Écritures nous dit que néanmoins, elle restait toujours très belle. Et puis arrive une armée ennemie, l'armée de Nabucodonosor, avec à la tête un général, Holoferne. Alors qu'ils viennent, comme d'habitude, assiéger la ville, donc tout autour, donc impossible de sortir. Bref. Alors comme toujours dans les sièges, le problème c'est l'eau et puis la nourriture. On peut tenir un certain temps, mais il y a un moment où si on ne sort pas, on est obligé de se rendre. Alors le prêtre, Ozias, connaissait la piété de Judith, donc on la tient informée, et puis à force de prier, Judith dit, bien voilà, j'ai prié le Seigneur, eh bien je vais y aller, je sais que le Seigneur va être moi, et je vais vous délivrer de cette armée. Une jeune veuve qui se lance pour délivrer cette ville. Alors, elle vient avec sa servante, donc elle enlève ses vêtements de deuil, elle se part, etc. Et puis, elle arrive avec sa servante chez les ennemis. Alors, elle dit, qu'est-ce que vous faites là, etc. Je voudrais voir le général, Holoferne. Ah bon ? Ah oui, parce que je connais des plans, je peux vous indiquer un chemin pour arriver à prendre la ville. Bon, alors très bien, écoutez, dans ce cas-là, le général va bien vous recevoir, il n'y a pas de problème. Bien, donc elle rentre et elle arrive devant le général, et voilà, elle dit, elle présente. Bon, alors le général, effectivement, dit, écoutez, d'accord, attendez, etc. Puis au bout du quatrième jour, ce général, Holoferne, va faire un banquet. Donc comme il est sûr de son coup, donc il commence déjà à fêter la victoire avant. Et puis, il invite Judith à ce banquet. Alors le plus simple, c'est que je vais vous lire la suite. C'est tout simplement dans la Sainte Écriture, donc ce n'est pas moi qui le raconte. Voilà ce qu'il est dit. Donc c'est le livre de Judith, tout simplement. Chapitre 12, si vous voulez, 15 et suivant. Elle se leva, donc elle vient d'être invitée au repas. Elle se leva, se para de ses vêtements et de tous ses atours féminins. Sa servante la précéda et étendit par terre vis-à-vis d'Holoferne la toison que Bagoas, donc c'était un serviteur d'Holoferne, avait donnée à Judith pour son usage journalier afin qu'elle puisse y étendre pour manger. Judith entra et s'installa. Donc, imaginez quand même le tableau. Vous êtes, je ne sais pas quel âge elle avait, Judith, mais elle ne devait pas être très très âgée. Il faut quand même une certaine force pour déjà rien que faire ça, jouer à essayer d'éliminer ce général. Le cœur d'Holoferne en fut tout ravi et son esprit troublé. Il lui dit, « Bois donc, partage notre joie. »« Je bois volontiers, Seigneur, car depuis ma naissance, je n'ai jamais tant apprécié la vie qu'aujourd'hui. » Voilà ce que dit Judith. Elle prit ce que lui avait préparé sa servante, puis mangea et but en face de lui. Donc, vous voyez, de temps en temps, il faut s'habituer à boire du vin, n'est-ce pas ? Holoferne était sous son charme. Aussi but-il une telle quantité de vin qu'en aucun jour de sa vie il n'en avait tant absorbé. Bon, quand il se fit tard, ses officiers se hâtèrent de partir. Bagoas ferma la tente de l'extérieur après avoir éconduit d'auprès de son maître ceux qui s'y trouvaient encore. Ils allèrent se coucher fatigués par l'excès de la boisson. Et Judith fut laissée seule dans la tente avec Holoferne, effondrée sur son lit, noyée dans le vin. Judith dit alors à sa servante de se tenir dehors près de la chambre à coucher et d'attendre sa sortie comme elle le faisait chaque jour. Elle avait d'ailleurs eu soin de dire qu'elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas. Tous en étant allés de chez Holoferne et nul petit ou grand n'avait été laissé dans la chambre à coucher. Debout près du lit, Judith dit en elle-même. « Seigneur, Dieu de toute force, en cette heure, favorisez l'œuvre de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. » C'est maintenant le moment de ressaisir votre héritage et de réaliser mes plans pour écraser les ennemis levés contre nous. Elle s'avança alors vers la traverse du lit, proche de la tête d'Holoferne, en détacha son épée, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit « Rendez-moi forte en ce jour, Seigneur Dieu d'Israël. » Par deux fois, elle le frappa au cou de toute sa force et détacha sa tête. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante, qui la mit dans la besace à vivre, et toutes deux sortirent du camp, comme elles avaient coutume de le faire pour aller prier. Une fois le camp traversé, elles contournèrent le ravin, gravirent la pente de Béthulie et parvinrent aux portes. De loin, Judith cria au gardien des portes : « Ouvrez, ouvrez la porte ! Car le Seigneur notre Dieu est encore avec nous pour accomplir des prouesses en Israël et déployer sa force contre nos ennemis comme il l'a fait aujourd'hui. » Quand les hommes de la ville eurent entendu sa voix, ils se hâtèrent de descendre à la porte et appelèrent les anciens. Donc tout le monde se rassemble, etc. Et d'une voix forte, Judith leur dit, louez Dieu, louez le Dieu qui n'a pas détourné sa miséricorde de la maison d'Israël, mais qui cette nuit a par ma main brisé nos ennemis. Et elle tire alors la tête de sa besace et la leur montre. Voici la tête d'Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assur, et voici la draperie sous laquelle il gisait dans son ivresse. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Vive le Seigneur qui m'a gardé dans mon entreprise, car mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte. Il n'a pas péché avec moi pour ma honte et mon déshonneur. En proie à une grande émotion, tout le peuple se prosterna et adora Dieu. Béni soyez-vous, ô notre Dieu, vous qui en ce jour avez anéanti les ennemis de votre peuple. Et puis ensuite, une belle prière que la liturgie d'ailleurs reprend, la prière en l'honneur de Judith. Voilà, exemple de force. Hein, et ça, c'est une femme. Hein. Bref. Donc vous voyez, effectivement, c'est le premier acte de la vertu de force, entreprendre des choses difficiles. Donc vous voyez comment c'est illustré. Bon, bien sûr, pour nous, ça n'ira peut-être pas jusque-là, hein, mais sachez qu'effectivement, de temps en temps, il faut entreprendre des choses courageuses. Deuxième acte, donc, comme je l'ai dit, c'est endurer. Endurer des choses difficiles. Et là aussi, il faut savoir souffrir. Il faut savoir endurer. Pour Dieu, des épreuves nombreuses et difficiles qu'il nous envoie. Les souffrances, les maladies, les railleries, les calomnies dont on est la victime. Et ceci, souvent, eh bien, c'est bien plus difficile que d'agir. Eh oui, endurer, endurer. Et saint Thomas, d'ailleurs, dit que c'est l'acte le plus important de la vertu. On voit si quelqu'un est vraiment fort, s'il sait endurer précisément les adversités. C'est plutôt la marque de la véritable force. Alors prenez des exemples dans votre vie quotidienne. Ça, je pense, c'est très simple. Je ne sais pas, par exemple, vous invitez des amis ou de la famille, une grande fête, etc. Vous avez un repas à préparer, bon, qui va vous demander beaucoup de travail. Mais peut-être que vous allez entreprendre cette préparation de ce repas, les meilleures recettes que vous savez faire, etc. Enfin bref, donc ça va vous demander beaucoup, mais vous savez que c'est pour l'honneur de vos amis, de vos invités, etc. Ben ça sera peut-être plus facile pour vous, plutôt que faire les repas de tous les jours, la routine, nourrir sa famille, toujours les jours la même chose, ça recommence, et puis... Et oui, vous voyez, pourtant, faire ses repas tous les jours, toutes les tâches humbles du ménage tous les jours, etc., ça sera beaucoup, demandera de votre part plus de force que peut-être juste un cas occasionnel, enfin un grand repas. Ouais, je pense qu'on est tous concernés. Souvent, ces actes tout simples sont plus difficiles à faire que d'entreprendre une grande action. Alors, pour progresser dans cette vertu de force, quels sont les degrés que nous avons à franchir? Eh bien, premier degré, c'est commencer à lutter courageusement contre les diverses craintes qui s'opposent à l'accomplissement du devoir. Toutes ces différentes craintes que nous avons, crainte des fatigues, des dangers. Alors là, il faut se rappeler que le seul mal, c'est le péché, ce qu'on a déjà vu, le seul mal véritable. Ensuite, il faut lutter courageusement contre les craintes des critiques, des moqueries, crainte du respect humain, qui précisément va nous porter à négliger notre devoir par peur des jugements défavorables qu'on portera sur nous, des moqueries, des railleries, etc. Non, il importe vraiment de former les jeunes au mépris du respect humain, ça c'est sûr. Il faut savoir braver l'opinion publique parce que d'abord, notre devoir. Puis aussi, la crainte qui souvent arrive, c'est la crainte de déplaire à ses amis. Et souvent, cette crainte est plus redoutable que d'encourir la vengeance de ses ennemis. On craint plus de déplaire à ses amis. Et pourtant, bien encore là aussi, de temps en temps, il faut se souvenir, ben, parfois il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ensuite, deuxième degré, pour pratiquer cette vertu, bien, c'est pratiquer le côté positif de la vertu de force. En s'efforçant, par exemple, d'imiter la force d'âme dont Jésus nous a donné l'exemple. Encore une fois, on revient au modèle de notre Seigneur pendant sa vie. Là, ça peut être une bonne chose, méditer par exemple la vie cachée de notre Seigneur. Bon, des âmes sont plus attirées par cette méditation de la vie cachée. Voyons cette obéissance, cette humilité de notre Seigneur. 30 ans, il fait les tâches humbles, il apprend son métier de charpentier. Eh bien pour nous, c'est le modèle, nous apprend à pratiquer la force et le courage dans les 1000 petits détails de la vie commune. Vous voyez, quand peut-être on est un peu lassé, eh bien pensons à notre Seigneur, ou la Sainte Vierge, si vous voulez, dans tous ces petits détails de la vie commune. Ensuite, il y a la vie publique de notre Seigneur, où là, on va le voir lutter contre le démon, contre les préjugés des Juifs, contre les pharisiens. On va le voir former avec patience les apôtres. Et là, il aura du mal. Il faudra bien 3 ans. Et bien là aussi, on voit l'exemple du courage calme et constant que nous devons pratiquer dans toutes nos relations avec le prochain. Vous voyez comment notre Seigneur s'adressait avec les gens qu'il rencontrait. Bien aussi pour nous, modèle de ce courage calme avec notre prochain. Puis bien sûr, vie souffrante de notre Seigneur. Alors bon, toute la passion sur les accusations. Vous voyez comme il reste serein malgré les accusations calomnieuses qu'on lui porte. Cette patience héroïque. Jesus autem tacebat. Mais Jésus se taisait. Calme résignation avec laquelle il s'abandonne à son Père. Mon Père, que votre volonté soit faite, non la mienne. Eh bien, toute cette vie souffrante de notre enfance au milieu des plus rudes épreuves. Vertu de force. Qui se manifeste par la patience. Patience dans les épreuves. Et puis ensuite, on monte à notre degré. Eh bien, savoir entretenir cette disposition généreuse de s'immoler pour Dieu. On s'immole pour Dieu par son devoir d'État, son devoir quotidien. Et donc, savoir subir ce martyr à petit feu, hein, qui consiste à tout faire pour Dieu, hein, de tout souffrir pour sa gloire. Et cela, même dans votre simple tâche, si vous êtes étudiante, si vous êtes mère de famille, si vous avez un travail, si, eh bien, c'est tous ces petits 1000 choses, eh bien, on le fait pour l'amour de Dieu, tout simplement. Et puis, si on monte donc ces 3 degrés, eh bien, cela va nous amener à l'acte principal de la vertu de force, qui est, aïe, 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 le martyr. Le martyr, parce que c'est là que la vertu de force apparaît avec toutes ses caractéristiques et dans tout son éclat. Évidemment, c'est là où on voit briller de manière particulière cette vertu de force. Parce que tous ces martyrs, bien, ils ont été mis en demeure d'opter entre des biens périssables, donc même jusqu'à la vie, et les biens spirituels, tels que la foi, les vertus, etc. Et puis, ils ont eu cette volonté constante de résister aux menaces, aux souffrances physiques, de subir la mort corporelle plutôt que de consentir à sacrifier la moindre parcelle de leur âme. Donc, plutôt la mort que le péché. Alors, évidemment, pour les profanes, les martyrs sont des fanatiques, comme on l'a entendu. Pour le monde, c'est incompréhensible. Pour eux, c'est des fanatiques victimes d'un entêtement stupide. C'est ça, un martyr pour les gens du monde, c'est ça. Bah, pour le chrétien, évidemment, non. Parce que le chrétien, la foi nous fait découvrir les réalités célestes, près desquelles, eh bien, les choses d'ici-bas ne sont que vanité. Et le martyr, bien, confesse sa foi jusque dans les bras de la mort. Bon, là, vous avez les exemples que vous avez entendus, les Christéros, tout ce qu'ils ont subi. Bon, chez nous, nous avons bien sûr les Vendéens, là aussi. Si vous avez jamais lu le livre de Reynald Secher, La Vendée vengée, eh bien, vous verrez donc cette œuvre d'un universitaire. Donc, il avait fait ça d'abord comme pure recherche universitaire, donc qui penchait pas du tout de ce côté-là. Eh bien, toutes les archives qu'il a découvertes, eh bien, lui ont fait écrire ce livre. Et c'est, enfin, il faut avoir le cœur accroché, quoi. Bon, quand aujourd'hui on vous parle de four crématoire, évidemment, on a en vue qu'une certaine période, la dernière guerre, et ça ne concerne que soi-disant un certain peuple, etc. Mais à l'époque des Vendéens, ça existait. Ils avaient déjà des fours crématoires et ils jetaient vivants les gens là-dedans. Des femmes, des enfants vivants dans des fours qu'ils avaient allumés. Ça, c'est la Vendée, ça, c'est la République. Voilà, ça, c'est la République. Après, quand on se dit républicain, enfin bref. Donc, si vous voulez, les Vendéens, ils ont subi tous ces martyrs. Mais des exemples, parce que d'abord, c'est la foi, on est là pour Dieu. Bon, bien sûr, vous avez des martyrs qui ont, mon paragraphe spécial, qui chantaient victoire, qui tressaillaient d'allégresse dans les supplices. Bon, ça, c'est plutôt des exceptions. Par exemple, Saint Tiburce, en marchant sur des charbons ardents, qu'est-ce qu'il disait? Il me semble que je foule des roses. Bon, vous connaissez Saint Laurent sur son gril. Oh, c'est assez cuit de ce côté, tourne et mange. Bon, ça, il faut une grâce particulière. Bon. Mais bref, donc si vous voulez, oui, le martyr, parce qu'on a cette foi qui nous fait voir les réalités célestes. Mais toutes les vertus chrétiennes, aussi bien que la foi proprement dite, peuvent donner lieu au martyr. Je pense, par exemple, ainsi, une vierge devient martyre de la chasteté si elle se laisse poignarder plutôt que de céder au séducteur. Ça, elle sera martyre. Elle bien est belle martyre tout court puisqu'elle a défendu ce trésor spirituel par fidélité au Christ, à notre Seigneur. Donc, c'est pour ça, exemple, Sainte Maria Goretti, par exemple. Elle a été canonisée comme martyre. Je ne sais plus quel âge elle avait, 12 ans, je crois, 12 ans. Oui, 12 ans, il me semble, hein. Donc, eh ben, elle a préféré mourir que de céder à son agresseur. Et son agresseur, elle l'a tué. Et d'ailleurs, son agresseur, ensuite, s'est converti, d'ailleurs, puisqu'il assistait à son procès de canonisation. Oui, martyr de la virginité. Hein, donc, bon, vous avez, alors là, j'ai vu ça dans les journaux, je crois, une certaine Anne Lorraine, je crois, ça, qui est tuée dans le RER aussi. Un peu, enfin, bon, après, c'est Dieu qui jugera, hein, ça, on ne connaît pas, mais c'est pareil qui a été tuée et qui n'a pas cédé à son agresseur. Et puis, dans ces exemples de martyrs, bien sûr, n'oublions pas la reine des martyrs, bien sûr, l'humble Vierge Marie, dont l'âme fut transpercée d'un glaive. Et dont la sensibilité sans subir la mort mérita cependant la palme du martyr au pied de la croix. Évidemment, on imagine la douleur de cette mère, hein, voyant son fils ainsi en croix. Notre-Dame, reine des martyrs, comme nous le disons dans les litanies. En tout cas, et là je vais entendre des soupirs de soulagement, il est certain qu'au plus grand nombre de ses fidèles, Dieu ne demande pas en fait le témoignage du sang. Mais par contre, tout chrétien, toute chrétienne, pour être digne de ce nom, doit être disposé à confesser sa foi, le cas échéant, évidemment, jusqu'au péril de sa mort, de sa vie, même au prix de sa vie. Mais, et là, il faut faire attention, ça ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas martyr. Oh oui, moi, ce sera facile, oh génial, tout de suite au ciel. Quand on se retrouve dans le bourreau qui commence à nous découper en morceaux, je ne sais pas si ça sera pas facile. Non, c'est que ça n'improvise pas parce que le beau combat, si vous voulez, dans un jour irradié de gloire, de victoire, eh bien, exige d'abord une longue préparation, dans les sombres tranchées du devoir quotidien. Eh oui, il faut commencer par son devoir quotidien, son devoir d'État, son obscur devoir d'État. Et alors, si Dieu un jour nous appelle à cette grâce, alors nous pourrons être fidèles à la grâce. Sinon, si déjà nous ne sommes pas capables de faire notre devoir d'État, notre simple devoir d'État, ne croyez pas que vous soyez capables un jour de mourir martyr. Devoir d'État, d'ailleurs, on l'appelle le martyr quotidien. Le martyr à coups d'épingle. C'est ça. Sachons le faire aussi en développant cette vertu de force. Bon, qu'est-ce qui s'oppose à cette vertu de force? Eh bien, c'est par défaut. Le manque de force, c'est ce qu'on appelle la lâcheté, bien sûr. Et provoque une faiblesse dans l'âme qui la rend tributaire des puissances inférieures. On est lâche. On lâche le bien qu'on a devoir de faire. Et puis par excès, péché par excès de force, c'est ce qu'on appelle la témérité. C'est le vice de l'homme qui ne doute de rien et ne redoute rien. Bon, ça, ce n'est pas l'audace vertueuse, hein, ce qui est faite de prudence et de courage. Non, la témérité, on ne tient pas compte des dangers réels qui existent, des dangers graves. Alors on se laisse aller à l'inconscience, à la naïveté ou à la présomption. Et souvent, d'ailleurs, cette témérité devient aussi source de faiblesse parce que quand on se rend compte du danger qu'on n'a pas voulu voir, eh bien souvent, on tombe dans la lâcheté, on tombe dans la faiblesse. Et vous avez l'exemple typique dans la Sainte Écriture, dans l'Évangile, c'est Saint Pierre. Saint Pierre a péché par présomption. Quand notre Seigneur dit, nous allons monter à Jérusalem, alors tout le monde dit, mais non, on ne va pas y aller, ils veulent vous faire mourir. Puis notre Seigneur dit, il faut que le Fils de l'homme, etc. Alors Saint Pierre, il dit, allons, allons-y. Oui, puis nous allons mourir, Seigneur, je vais mourir avec vous. Pierre, avant que le coq ait chanté trois fois, tu m'auras. A chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais non, Seigneur, c'est pas vrai, vous allez voir, je vais mourir avec vous. On connaît la suite, hein. On connaît la suite. Donc déjà, à l'arrestation, il s'enfuit. Bon, il revient avec Saint Jean quand même. Il rentre dans la cour du grand prêtre. Et puis lui, l'homme, le pécheur de Galilée, eh bien, il va tomber, faiblesse. Bah, parce que vous connaissez une servante, une autre. Un gars, bah toi, ton accent ne te trahit, toi, t'es du Nord. Ah, et oui, t'es Galiléen, mon vieux. Et t'étais avec lui. Ah oh non, je connais pas cet homme, etc. Voyez, témérité, présomption. Hop, il tombe. Ensuite, par faiblesse, il renie son maître. Bon, après, bien sûr, il a regretté son péché. Il a pleuré. Alors, voyons rapidement les moyens de perfectionner cette vertu de force. D'abord, peut-être ne négligeons pas l'éducation de la volonté. Ça, il faut être assez fort. Notre volonté doit être assez forte pour commander aux facultés sensibles, aux passions, et être assez docile pour obéir à Dieu. Donc ça, l'éducation de la volonté, même chez nous, il faut l'éduquer, il faut ne pas faire tous nos caprices. Et ça, c'est important si vous avez des enfants, des petits-enfants, ne pas passer leurs caprices. Il faut former leur volonté. Et puis ensuite, le secret de notre force, eh bien, réside vraiment dans la défiance de nous-mêmes et la confiance absolue en Dieu. Parce que nous sommes capables de rien, de faire de bon dans l'ordre surnaturel sans le secours de la grâce. Mais par contre, nous participons à la force même de Dieu si nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Saint Jean, chapitre 15, verset 5. Donc on se défie de nous-mêmes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur. Oui, dans l'ordre spirituel, on ne peut rien faire, mais on s'appuie sur la force de Dieu. Et puis à cette disposition, eh bien, il faut joindre des convictions profondes et l'habitude d'agir conformément à ces convictions. D'où votre retraite, vous allez méditer sur ces grandes vérités, la fin de l'homme, l'horreur du péché, se soumettre à la volonté de Dieu. Et tout ça, il faut que vous en soyez convaincus. Ça soit vraiment imprégné dans votre âme. Et alors, ensuite, vous allez agir en fonction de ces convictions. En disant, ben, si j'ai telle action à poser, qu'est-ce que ça vaut pour l'éternité, par rapport à l'éternité? Et puis ensuite, pour mieux surmonter les difficultés, bon, ça c'est très simple, il faut peut-être les prévoir aussi, les envisager en face, s'armer contre elles, de courage contre elles. Par bon, exemple, je sais pas, vous allez avoir une réunion délicate, vous allez rencontrer des gens, je sais pas quoi, qui vont vous agresser verbalement, parce qu'ils savent que vous êtes tradis. Bon, ben, on se prépare un peu par la prière, on essaie de voir les arguments qui vont nous opposer, etc. Donc, vous voyez, comme ça, une personne avertie en vaut deux, comme on dit. Enfin, ne pas oublier que rien nous rend intrépide comme l'amour de Dieu. Rien nous rend intrépide comme l'amour de Dieu. Si l'amour rend une mère courageuse et vaillante quand il s'agit de défendre ses enfants, et vous le savez, vous, par expérience, eh bien, que ne fera pas l'amour de Dieu quand il est profondément enraciné dans l'âme? Et ça, c'est saint Paul, Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 et suivants. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, on vous met à mort tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà comment perfectionner cette vertu de force dont nous avons bien besoin. Pour terminer, en conclusion, je vous lis juste ce passage, donc toujours du Père Sineux. Que ce soit le lion rugissant qui rôde autour de nous, dont parle saint Pierre, ou bien les esprits néfastes répandus dans l'atmosphère, qu'énumère saint Paul, ou encore les épreuves physiques, privations, peines, maladies, qui affligent la nature humaine dans sa sensibilité et risquent d'avoir une funeste répercussion sur l'attachement au devoir et à Dieu, il est d'expérience quotidienne que la vie spirituelle est en but à toutes sortes d'assauts. Elle ne peut être préservée que grâce à une résistance organisée et tenace. C'est le rôle de la vertu de force. On pourrait dire par conséquent que dans l'ordre de l'action, la vertu de force passe la première. Commencez par sauvegarder le bien que Dieu a mis en vous, à vous défendre contre les incursions ennemies, afin de conserver la paix et de promouvoir les progrès de la vie. Voilà, donc sachons demander toujours au bon Dieu eh bien, d'exercer cette vertu de force pour notre vie spirituelle. Mesdames, Messieurs, en vue de notre proche atterrissage, nous vous demandons de bien vouloir regagner votre siège, d'attacher vos ceintures, de relever la tablette, de redresser le dossier de votre siège. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie et espérons vous retrouver très prochainement à l'occasion de votre prochain voyage au sein de nos vols. Nous en remercions et bonne journée. Ladies and gentlemen... Welcome to Paris. It's 8 o'clock local time. Ok, bon, bien. À force d'entendre ça, on connaît ça par cœur. Bref, j'espère qu'effectivement, on peut faire une comparaison, n'est-ce pas? Après avoir amorcé une descente, c'est bien, on atterrit. Eh bien, c'est le cas. La dernière. Ouf, bref. Alors, quand on atterrit comme ça, c'est un peu le cas, parce que pendant 5 jours, vous avez été dans des sommets, n'est-ce pas? C'était la joie parfaite. Et nous allons nous retrouver bien dans le terre-à-terre maintenant, dans le concret. Donc le piège maintenant va se situer au niveau de vos résolutions. Le piège est de prendre, ou peut-être d'abord de ne pas prendre de résolution. Oui, ça c'est le premier piège. Ah ben pendant 5 jours, avec les prières, avec les lectures, avec tout ce que j'ai fait, là c'est bon pour 10 ans. Hein. Bon, alors, premier cas. Deuxième cas, vous prenez quand même des résolutions. Alors, évidemment, le piège, c'est qu'elle soit complètement déconnectée du réel, de votre situation concrète. Oui, j'ai prévu 3 rosaires en famille. Donc, le premier, évidemment, toute la famille, on se lève tous 6h du matin et on se met tous à genoux pour les premiers rosaires. Deuxième rosaire avant le repas de midi. Troisième rosaire avant le dîner. Et pour être sûr qu'on n'a pas dit avec distraction, 1/4 chapelet avant de se coucher. Bien. Ou alors, non, j'ai une autre résolution, j'arrive à la maison, je me précipite dans le bureau de mon mari, je prends l'ordinateur et par la fenêtre. Mon Dieu. Ou alors, autre idée, je vais dans un magasin vêtements, je m'achète un tchador. Oui, parce que là, j'ai compris. Plus de problème, je suis sûr de plus oublier mon foulard pour la messe. Bref, voilà les bonnes résolutions que vous avez prises. Eh bien, dis donc, je ne sais pas ce que vont dire votre famille, votre mari, vos enfants, bref. Alors, important, c'est évidemment de les faire viser par un prêtre avant. Alors, peut-être vous l'avez certainement toutes fait déjà. Ou alors, si c'est le prêtre qui vous connaît dans le ministère, votre confesseur, bien voilà, mon père, monsieur l'abbé, j'ai pris ces résolutions, est-ce que ça me convient? Parce que si on prend des résolutions, a priori, c'est pour les tenir. Alors, pour terminer, on vous a parlé de la Sainte Vierge. Eh bien, je vais peut-être continuer sur cette lancée en disant un mot sur la croisade du rosaire. Croisade du rosaire qui a été, vous savez, qui a été lancée par Mgr Felet, notre supérieur général. Il est vrai que cette troisième qu'il vient de lancer, c'est, j'allais dire, grâce certainement au succès des deux précédentes. La première qui avait consisté à demander un peu cette messe pour tous les prêtres, la messe traditionnelle pour tous les prêtres. La deuxième, ben je pense certaines d'entre vous étaient au pèlerinage à Lourdes, donc au mois du Rosaire, au dimanche du Christ-Roi, octobre 2008. Et donc là, vous avez entendu de vive voix, Monseigneur, lancer cette croisade pour qu'on nous enlève l'étiquette infamante de l'excommunication. Et il faut reconnaître que ça a été un succès plutôt spectaculaire, puisque c'était pour Noël. Et puis, Monseigneur avait décidé de se rendre à Rome mi-janvier pour aller présenter au pape ses bouquets spirituels de rosaire. Et avant de partir, eh bien, il reçoit le fameux coup de téléphone du cardinal Hoyos. « Je voudrais vous voir parce que j'ai une nouvelle importante pour vous. » Bref, vous connaissez la suite. Alors évidemment, et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça dans un évêque allemand, dans un journal allemand, a accusé Mgr Felet d'avoir lancé cette croisade du chapelet, du rosaire, connaissant déjà le résultat. Donc un évêque allemand qui dit ça, voilà, non, Mgr Felet, de toute façon, il savait déjà, c'était des bruits qui couraient, donc il a fait ça, il savait déjà qu'il allait... Là, je peux vous assurer, pour l'instant, étant assez bien placé à ses côtés, c'est complètement faux, entièrement faux. Quand Monseigneur a lancé cette croisade, bien sûr, ça faisait partie de ce qu'on appelait le fameux deuxième préalable pour engager des discussions. Oui, certes, mais disons, à vue humaine, il n'y avait pas de raison qui nous faisait croire que ça allait être obtenu. Et puis même, j'allais dire, vous avez non seulement des évêques allemands, enfin vraiment des modernistes, mais vous avez aussi tous les cédévacantistes qui ont lancé aussi cette accusation. « Oh, c'est facile, de toute façon, il connaît déjà le résultat avant, et puis il lance une croisade. » Comme quoi, on voit entre parenthèses que les extrêmes se rejoignent. Et on voit, c'est plutôt un bon signe d'être attaqué sur la droite et sur la gauche, parce qu'il faut voir avec quelle haine, de la part des cédévacantistes qui crient tous au ralliement, et de la part des modernistes qui disent « ces gens-là, il ne faut surtout pas les accepter, ils n'acceptent pas le Concile Vatican II », donc vous êtes attaqués à droite et à gauche. Bon, ça c'est bon signe, donc on est sur la bonne voie, comme disait Monseigneur, ni hérétique ni schismatique, on est pour l'Église, on continue. Alors cette troisième croisade engagée, vous savez, c'est pour obtenir la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Consécration donc par le pape, unie aux évêques du monde entier, comme l'a demandé Notre-Dame de Fatima. Puisque les précédentes consécrations, que ce soit celles faites par Pie XII, ne mentionnaient pas la Russie, et celles de Jean-Paul II non plus, et ce n'était pas fait surtout en union avec aussi tous les évêques. Alors pour vous inciter bien sûr à être généreuse, à prier pour cette intention-là, eh bien je vais tout simplement repasser avec vous, même si vous les connaissez, mais je pense que c'est un bon rappel, les paroles de Notre-Dame à Fatima, parce qu'il me semble qu'on peut vraiment les méditer. Et cela va nous inciter à bien dire donc ces chapelets, ces rosaires, dans le but de la Sainte Vierge, de Notre-Dame de Fatima. Et puis c'est merveilleux, ces apparitions, reconnues par l'Église, donc là, il n'y a aucun problème, c'est la vérité. Donc attention évidemment à toutes celles qui ne sont pas reconnues par l'Église, là, c'est déjà beaucoup plus dangereux. Mais là, non, il n'y a pas de problème. Alors, le 13 mai 1917... la Sainte Vierge arrive, bien sûr, les enfants sont un peu effrayés. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » Lucie demande « D'où vient votre grâce ?»« Je suis du ciel. » »« Et que veut de moi votre grâce ?»« Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai une 7e fois. » Alors là, question de Lucie. On voit tout de suite, vous voyez, où étaient orientés ses désirs. « Et moi aussi, est-ce que j'irai au ciel ? » Est-ce que nous aurions demandé ça? Est-ce que la première question, non? Peut-être sans doute pas. Non. Est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras. Et Jacinthe? Aussi. Et François? Aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Bon, ça devait être un petit polisson. Voilà. Eh oui, lui, il faudra qu'il en récite des chapelets. Bon. Alors ensuite, et là, c'est aussi une leçon pour nous, est-ce que Maria das Neves est déjà au ciel? Oui, elle y est. Donc ensuite, il me semble qu'elle devait avoir environ 16 ans. Donc vous voyez, une jeune fille de 16 ans, elle est déjà au ciel. Et Amélia? Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, Lucie dit, il me semble qu'elle devait avoir entre 18 et 20 ans. Vous voyez, une jeune fille qui meurt entre 18 et 20 ans, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Alors, bon, je n'ai pas ça ici, mais il me semble avoir lu ailleurs qu'effectivement, certains se sont étonnés, essayaient de voir la vie de cette jeune fille. Quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur a fait qu'elle soit au purgatoire jusqu'à la fin du monde? Eh bien, les gens ont vu, bon, c'était une jeune fille ordinaire, j'allais dire, mais qui était frivole, qui aimait beaucoup la danse, aller dans les bals, etc. Eh bien, vous voyez, Dieu merci, elle n'a pas commis de péché mortel, ou alors elle s'en est accusée, et puis elle est morte en état de grâce, en tout cas. Si elle est au purgatoire, elle est en état de grâce. Mais en tout cas, ça veut dire qu'elle n'a pas expié ses péchés, en tout cas, si elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez, c'est aussi une leçon pour nous. On peut mourir jeune et puis être pour le purgatoire un bon bout de temps. Ensuite, voulez-vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous le voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Voyez, là aussi, on voit bien comme à Lourdes, la Sainte Vierge qui vient demander pénitence, la conversion des pécheurs. Là, c'est pareil à Fatima. Elle redemande la même chose, conversion des pécheurs. Oui, nous le voulons, alors vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Alors là aussi, ça doit déjà nous consoler, parce que nous-mêmes, nous avons des souffrances plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, mais nous avons la grâce de Dieu. Toujours se dire cela, Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Jamais. Si on a des souffrances, on a la grâce pour les porter. Ensuite, Notre-Dame ajouta, « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Bon, » vous rappelez, on est en 1917. Déjà, donc vous voyez, récitez le chapelet tous les jours. Donc déjà, si vous ne le faites pas, marquez-le déjà en résolution. Un chapelet tous les jours. C'est la Sainte Vierge qui nous demande. La paix dans le monde. Regardez aujourd'hui, mon Dieu, dans quelle époque nous vivons. Bon, bien sûr, vous dites, mais on est en paix pour l'instant. Quelle paix, mon Dieu. Maintenant, il y a des quartiers, il faut plus sortir, de se faire égorger. On ne peut pas dire qu'on respire la paix dans le monde. Je vois pas. Que ce soit dans les grandes villes, celles qui habitent dans les grandes villes, il y a sans doute des quartiers où vous n'y riez pas. Déjà la nuit tombée, mais peut-être même pendant le jour. Donc, vous voyez, la paix, elle n'existe pas vraiment. Donc, vous voyez, chapelet pour la paix. Et la fin de la guerre, au moins la guerre spirituelle pour nous maintenant. Pouvez-vous me dire si la guerre durera encore longtemps, si elle va bientôt finir? Je ne puis te le dire encore tant que je ne t'ai pas dit aussi ce que je veux. Voilà le 13 mai. Donc vous voyez déjà, on voit bien Notre-Dame qui demande conversion des pécheurs, réciter le chapelet. Et puis déjà Lucie qui a cette assurance d'aller au ciel et vous allez voir, ça lui servira après. 13 juin 1917, apparition du 13 juin. Que veut de moi votre grâce? Eh bien, je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours. Oui, encore, disiez le chapelet tous les jours, et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. Bon, donc vous voyez, 10, je ne sais pas quoi, ils avaient l'air, 10 ans, 8 ans, 7 ans, ils ne savaient a priori pas lire. Je demandais la guérison d'un malade. S'il se convertit, il sera guéri durant l'année. Vous voyez la Sainte Vierge. Et ça, c'est l'Évangile. Quand vous lisez l'Évangile, on en a parlé, quand notre Seigneur, avant de guérir, il demande, as-tu la foi? Oui, alors sois guéri, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, la Sainte Vierge, pareil. La guérison, c'est lié avec une conversion. S'il se convertit, oui, il sera guéri dans l'année. Ensuite, et c'est amusant, vous voyez, donc Lucie qui a 10 ans, hein, je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. C'est merveilleux. Bon, vous me direz, si on voit la Sainte Vierge, je pense qu'effectivement, on doit vraiment avoir envie d'aller au ciel. Ça, c'est sûr, ça, je le comprends. Mais vous voyez, tout de suite, elle ne nous dit pas, ah, j'aimerais rester longtemps, etc. Non, tout de suite, aller au ciel. Ben, est-ce que nous, c'est pareil? Posez-vous la question. Vous avez une apparition, quelqu'un qui vous dit, voilà, si vous mourrez maintenant, vous allez au ciel. Est-ce que vous voulez mourir maintenant ou encore attendre un peu? Oh, vous savez, je ne suis pas pressé, hein? Alors que si on vous dit, on va au ciel, ben non, on devrait tout sûr dire, ben non, tout de suite, d'accord, je vais au ciel. Bon, vous voyez, en tout cas, c'était le cas de Lucie. Alors, réponse de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge a beaucoup d'humour. Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. C'est vrai, ils vont mourir pas longtemps après. Enfin, je ne sais plus, 1919, 1920, enfin bon, 2-3 ans plus tard. Bon, la grippe espagnole, ils vont mourir. Mais toi, Lucie, tu resteras ici pendant un certain temps. Alors, c'est là où j'aime l'humour de la Sainte Vierge. Ici, le certain temps, ça veut dire plus de 80 ans. Hein. Puisque Lucie va mourir à 97 ans. Et là, elle avait 10 ans. Donc, vous voyez combien le certain temps de la Sainte Vierge... Bon, par rapport à l'éternité, c'est rien, c'est clair. Oui, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Ça, c'est à retenir. À qui embrassera donc cette dévotion à son cœur immaculé? Je promets le salut. Promesse de la Sainte Vierge, ça, on est sûr qu'elle l'accomplit, hein, qu'elle la tient. Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs passées par moi pour orner son trône. Alors, par contre, Lucie, elle a un peu de peine. « Alors je vais rester ici toute seule ?» demandai-je avec peine. Et là aussi, retenez ça, parce que ça vaut pour nous. « Non, ma fille, tu souffres beaucoup ? Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Ça, quand je prêche à des enfants en retraite, je dis « Vous notez ça. » Vous notez, vous le soulignez, vous l'apprenez par cœur pour en vivre. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. C'est la Sainte Vierge qui nous dit ça. Quand on a un peu le spleen, mélancolie, je ne sais pas, désespéré, découragé, rien ne va plus, on a des soucis partout avec je sais pas quoi, les enfants, sa famille, ses amis, etc. Bah, souvenez-vous de cela, revenez au cœur immaculé de Marie. Il sera notre refuge et notre chemin qui nous conduira jusqu'à Dieu. Et vous voyez ici, c'est très profond, parce que la Sainte Vierge, quand on lui est dévoué, ce n'est pas une dévotion qui reste pour elle-même. Son but, c'est de nous conduire à son Fils. Et c'est son Fils qui est Dieu. Donc toute dévotion à la Sainte Vierge, évidemment, est là pour aller à Dieu, pour aller à notre Seigneur. Et elle-même, elle le dit, c'est le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. La Sainte Vierge nous prend par la main pour nous conduire à son Fils. Donc d'ailleurs, vous connaissez la dévotion de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, cette consécration à la Sainte Vierge. Le but, il est là. C'est, on se consacre à la sagesse éternelle par les mains de Marie, pour que Marie nous conduise à notre Seigneur. Donc vous voyez, déjà, 13 juin, vraiment une belle apparition. Déjà le cœur immaculé, qui est le chemin pour aller à Dieu. Ensuite, le 13 juillet, « Que veut de moi votre grâce ?»« Alors je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Vous voyez, à chaque fois, déjà les trois premières, donc encore dites le chapelet. Alors là, vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Plus d'excuses, pour ne pas le dire. Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle afin que tous croient que votre grâce nous apparaît. Réponse : continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous verront pour croire. Vous voyez, donc c'est quelque chose déjà. Vous voyez, en octobre, il y aura un miracle en octobre. Tout le monde pourra le voir. Ça, c'est quelque chose de précis. Quand vous avez le sujet d'autres, enfin, des apparitions qui ne sont pas reconnues. Quand on vous dit, si, il y aura un miracle, ça sera les trois jours des ténèbres, si, on vous l'annoncera, etc. C'est pas clair. Là, la Sainte Vierge ici, Fatima, c'est clair. Oui, d'accord, en octobre, miracle. Au moins, c'est, oui, c'est clair. Puis, après, vous connaissez la fin de l'histoire. Ensuite, Notre-Dame continua, sacrifiez-vous pour les pécheurs. Vous voyez, retour aux pécheurs. Et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Sacrifiez-vous pour les pécheurs. Donc, vous voyez, ne pas les oublier. Là aussi, quand on a nos soucis, nos difficultés, pensons à offrir ça pour la conversion des pécheurs et réparer les offenses au cœur immaculé de Marie. Alors ensuite, vous avez le moment terrible. En disant ces dernières paroles, elle ouvrit de nouveau les mains, comme les deux derniers mois. Le reflet de la lumière parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant forme humaine. Elles flottaient dans cet incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Cette vision ne dura qu'un moment grâce à notre bonne mère du ciel qui, à la première apparition, nous avait promis de nous emmener au ciel, sans quoi je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Alors après, on va dire, ah non, il ne faut pas parler de l'enfer. Vous allez effrayer les gens. Non, surtout pas. Eh bien, vous voyez, la Sainte Vierge n'a pas eu peur de montrer l'enfer à des petits-enfants. Vous allez traumatiser. Vous allez parler de l'enfer, vous allez traumatiser les gens. Eh bien, la Sainte Vierge n'a pas traumatisé trois enfants. Et après, et là aussi, c'est tout à fait évangélique, notre Seigneur aussi parle, l'enfer, malheureusement, il n'est pas vide. Malheureusement, il y a des âmes qui tombent en enfer. Et aujourd'hui, on veut nous faire... Bon, on ne peut pas nier l'enfer, parce qu'il faudrait réécrire l'Évangile, mais on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il est vide. Mais c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Sainte Vierge, après ? Elle dit, vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver. Pour les sauver. Donc, pour qu'ils n'y tombent pas. Sauver les pécheurs. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Alors, entre parenthèses, donc cette nuit, ça s'est produit en 1938. Donc il y a eu, je crois, on a dit que c'était une aurore boréale, donc qui a été visible en France. Donc une nuit illuminée, et je connais une personne qui en avait été témoin. Et c'est en 38, et ben vous savez que la suivante, elle commençait déjà, quoi, en 39. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Alors, déjà une preuve que les précédentes n'ont pas été faites en fonction des demandes de la Sainte Vierge, c'est que la Russie, elle n'est pas convertie. Elle est toujours orthodoxe. Donc, si on fait vraiment ce que veut la Sainte Vierge, la Russie se convertira. Donc, non seulement il n'y aura plus le communisme, mais en plus, elle redeviendra catholique. C'est ce que dit la Sainte Vierge. La Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Donc, ne nous plaignons pas. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ça aussi, retenez ça. Ça, c'est le message d'espoir. Le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal, se consacrera toujours le dogme de la foi, etc. Cela ne le dit à personne. À François, oui, vous pouvez le dire. Donc, bon, ça, vous connaissez. Hein, donc, voyez, déjà là, elle demande cette consécration de la Russie. Et puis, elle termine, « Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère, ô mon Jésus, pardonnez-nous, sauvez-nous du feu de l'enfer, attirez aux âmes toutes les âmes, au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont plus besoin. Votre grâce ne me demande-t-elle rien de plus ? Non, aujourd'hui, je ne te demande rien de plus. » Donc certainement, cette apparition du 13 juillet est certainement l'une des plus importantes, puisqu'il y a eu le fameux secret aussi qui était au milieu, bon, disons qu'il a été dévoilé en l'an 2000, je crois, 2000-2001. Donc, cette vision où on voit effectivement le pape, enfin les ruines, quoi, les ruines de l'Église avec des morts, etc. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est clair, la Sainte Vierge qui nous donne encore le remède. Hein, qui nous donne le remède. Après, apparition du 13 août. Pas de réaction. Ou vous dormez. Ou... Non, il n'y a pas eu d'apparition le 13 août. La raison, elle est simple, c'est que le 13 août, les enfants, ils étaient en prison. Donc, on les avait mis en prison. Donc, la Sainte Vierge, bon, donc n'est pas venue. Enfin, et par contre, c'est le 19 août. Le 19 août qu'elle est apparue, mais non pas à l'endroit habituel, mais au Valinos. Donc, ceux qui y sont allés, vous connaissez, il y a un monument un peu plus loin où effectivement, la Sainte Vierge est apparue. Donc là, qu'est-ce que veut de moi votre grâce ? Je veux que vous continuez d'aller à la Cova d'Arriaria, voilà, le 13, que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours. Vous voyez, encore le chapelet. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. Je rappelle le miracle. Si l'on ne vous avait pas emmené à la ville, donc en prison, le miracle aurait été plus connu. Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde. Notre Seigneur viendra bénir le peuple, viendra aussi Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des Douleurs. Ensuite, question très matérielle. Que voulez-vous qu'on fasse de l'argent que les gens laissent à la Cova d'Airia ? Parce que les gens ont laissé de l'argent, donc les pauvres, ils ne savaient plus quoi faire avec l'argent. Alors, la Sainte Vierge, très pratique, eh bien, qu'on fasse deux brancards de procession. Tu porteras l'un avec Jacinthe et deux autres petites filles habillées de blanc, l'autre que François le porte avec trois garçons comme lui, vêtus d'une aube blanche. Ce sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce qui restera sera pour aider à construire une chapelle que l'on fera faire. Oui, réponse très claire. Bien. Ensuite, elle demande des guérisons. Oui, j'en guérirai certains dans l'année. Et puis, prenant un air plus triste, priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Et ça va être un motif pour les enfants de redoubler leur pénitence. Et ça aussi, il nous faut qu'on nous rappelle. Pour les pécheurs, beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Vous voyez, n'oublions pas de prier pour la conversion des pécheurs. Ensuite, 13 septembre. Que veut de moi votre grâce ? Continuez à dire le chapelet. Afin d'obtenir la fin de la guerre. En octobre, notre Seigneur viendra, notre âme des sept douleurs, Carmel, Saint-Joseph, etc. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Donc ils avaient fait une corde qu'ils portaient à même la peau. Donc la nuit, ben, évidemment, il dormait mal, etc. Alors Sainte Vierge dit, non, attendez, pas trop quand même. Donc, vous voyez, elle est délicate. Ensuite, une guérison, bon, on est en train de dire que je guérirai les uns, mais les autres non, parce que notre Seigneur ne se fie pas à eux. Notre Seigneur nous connaît, hein. Le peuple voudrait avoir une chapelle. Avec la moitié de l'argent reçu jusqu'à ce jour, que l'on fasse les brancards de procession et qu'on les porte à la fête de Notre-Dame. L'autre moitié soit pour aider la chapelle. Notre-Dame répète. Ensuite, c'est amusant, Lucie offre deux lettres et un petit flacon d'eau de senteur qui lui avait été donné par un homme de la paroisse d'Olival et elle les offre à la Sainte Vierge. On m'a donné ça, est-ce que votre grâce le veut-elle? La Sainte Vierge, cela ne convient pas pour le ciel. Donc pas de parfum au ciel. Hein. En octobre, je ferai le miracle pour que tous croient. Et commencera à s'élever. Oui, il rappelle toujours le chapelet, conversion des pécheurs, etc. Et puis on arrive au 13 octobre. 13 octobre, que veut de moi votre grâce? Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que le continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir, les militaires vont bientôt rentrer. Vous voyez, six apparitions, six fois le chapelet. Donc là, vraiment, plus aucune excuse. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous demander, de guérir, etc., de convertir. Les uns, oui, les autres, non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Mais toujours. Oui, toujours. D'abord, le plus important, c'est la guérison spirituelle. D'abord, la conversion. Et après, éventuellement, la guérison corporelle. Et prenant un air plus triste, là aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, que l'on n'offense pas davantage Dieu notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. C'est vraiment la maman qui parle, quoi. Écoutez, mon fils est vraiment déjà trop offensé. Alors arrêtez de l'offenser. N'offensez pas davantage Dieu notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Vous ne voulez rien de plus de moi? Non, je ne veux rien de plus de toi. Alors, moi, je ne demande plus rien non plus. Et puis là, Lucie cria, regardez le soleil. Alors, on put regarder parfaitement le soleil sans en être incommodé. On aurait dit, faisait remarquer bon, quelqu'un, qu'il s'éteignait et se rallumait, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il lançait des faisceaux de lumière, d'un côté, de l'autre, et peignait tout de différentes couleurs, les arbres, les gens, le sol, l'air. Mais la plus grande preuve du miracle, c'est que le soleil ne faisait pas mal aux yeux. Donc là, il y avait 70 000 personnes. Donc 70 000 personnes qui ont vu ce miracle. Alors vous imaginez les témoins. Tout le monde était immobile. Tout le monde se taisait. Tous regardaient le ciel. Imaginez. À un certain moment, le soleil s'arrêta et puis recommença à danser, à tournoyer. Il s'arrêta encore une fois et se remit encore une fois à danser, jusqu'au moment, enfin, où il parut se détacher du ciel et s'avancer sur nous. Ce fut un instant terrible. Imaginez, le soleil qui commence à approcher. Il produisait différentes couleurs. Jaune, bleu, blanc, il tremblait, tremblait tellement. Il semblait une roue de feu qui allait tomber sur la foule. On criait, ô Jésus, nous allons tous mourir. Ô Jésus, nous mourons tous. D'autres criaient, Notre-Dame, au secours. Il récitait l'acte de contrition. Il y avait même une dame qui faisait sa confession générale et disait à haute voix, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et encore cela. Finalement, le soleil s'arrêta et tous poussèrent un soupir de soulagement. Nous étions vivants et le miracle que les enfants avaient annoncé avait eu lieu. J'imagine la pauvre dame. Ah bon, madame, vous avez fait ça? Ah ben, dis donc. Et puis, pendant ce temps, les enfants, eux, voyaient la Sainte Famille, Notre-Dame des Sept Douleurs et Notre-Dame du Mont Carmel. Voilà donc ce grand miracle, hein, ce grand miracle qui donne vraiment le sceau de véracité à Notre-Dame de Fatima. Et puis pour terminer, parce que la Sainte Vierge va venir préciser, elle a dit qu'elle reviendrait une septième fois. Eh bien, elle va revenir le 10 décembre 1925 à Ponte Vedra, là où Lucie était rentrée chez les religieuses. Mais ce n'était pas encore le Carmel. Elle avait d'abord fait un essai sur ce qu'on appelle les sœurs, chez les sœurs Dorothée de Pontevedra. Donc elle était là à ce moment-là. Et le 10 décembre 1925, la Sainte Vierge lui apparaît avec l'enfant Jésus. Et l'enfant lui dit: « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment sans qu'il y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. » Et ensuite, la Sainte Vierge me dit: « Vois ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Les fameux 5 premiers samedis du mois. Vous voyez, où c'est la Sainte Vierge qui a précisé les conditions. Alors après, bon, il y aura même encore d'autres précisions, mais disons, vous voyez, se confesser, communier, réciter le chapelet, et puis 15 minutes de méditation en esprit de réparation. C'est quand même pas difficile. Et ça, bien, Notre-Dame nous promet de nous assister, bien sûr, le salut. Alors, ce rappel, encore une fois, ce n'est qu'un rappel, c'est clair, mais vous comprenez pourquoi, eh bien, nous devons essayer de correspondre à ces demandes de la Sainte Vierge pour obtenir, eh bien, cette consécration dans la Russie, parce qu'encore une fois, la Sainte Vierge y a attaché, eh bien, cette conversion, cette paix, c'est-à-dire, eh bien, les âmes qui pourront revenir vers Dieu, tout simplement. Donc, ça doit être vraiment notre grand souci pour éviter que des âmes tombent en enfer. Alors soyons fidèles à ces demandes de Notre-Dame. Et ces demandes, d'ailleurs, si nous les remplissons, ce chapelet, etc., bien, ces demandes nous aideront à nous sanctifier, ainsi à mener une vie de plus en plus chrétienne. Alors en conclusion, je termine par un petit passage de Don Marmion qui résume un peu toute cette retraite que vous avez suivie. Et je pense. Donc vous trouverez ce passage dans Christ, vie de l'âme, qui concerne un peu, eh bien, notre vie chrétienne, tout simplement. Nous ne devons pas changer de nature, mais redresser ce qu'elle a de défectueux. Nous ne devons pas user de formules longues. L'intensité de l'amour peut tenir dans un seul regard du cœur. Il nous suffit de demeurer dans la grâce sanctifiante, de tout rapporter à Dieu et à sa gloire par une intention pure, et dès lors de vivre en homme, en femme, à la place que la Providence nous a assignée, en accomplissant la volonté divine, en remplissant le devoir du moment présent. Et cela simplement, paisiblement, sans agitation, sans fièvre, avec cette confiance intime et profonde, faite de liberté d'âme et de joie intérieure, de l'enfant qui se sent aimé de son père et lui rend cet amour dans la mesure de sa faiblesse. Eh bien, c'est ce que nous allons demander à la Très Sainte Vierge Marie, que Sainte Sainte Vierge vous obtienne ses grâces d'être ainsi, eh bien, de saints enfants de Dieu et d'accomplir toujours sa sainte volonté.